Étiez-vous là, François, dans le temps de l'OVNI de la place Bonaventure?
Oui.
Ben oui, je comprends. Alors, Snowden, il sait pas de quoi il parle. On avait eu un OVNI au-dessus de la piscine.
Oui, tout à fait.
La piscine en plein air, là.
Puis c'était très, très clair.
Oui. Mais là, Christian Page...
Je devais parler avec Christian, d'ailleurs, il y a quelques mois de ça.
Oui, ben j'en ai parlé avec lui. Mais là, il dit, ça vient de Snowden, il a eu accès à des dossiers extrêmement, extrêmement secrets.
C'est peut-être lui qui s'est fait infiltrer, Christian, par
peut-être,
exemple.
Peut-être. Alors, allons-y tout de suite, parce que vous avez eu des questions importantes des auditeurs aujourd'hui. Et puis, on va commencer par la première. Où trouver un bon planificateur financier?
C'est Rachel Laberge qui prendra sa retraite d'ici un an. Elle me demande si c'est mieux d'en consulter deux pour avoir possiblement deux sons de cloche. Je dirais oui. Pourquoi? Ben, on magasine son mécanicien, à la rigueur même, on magasine son pharmacien et son médecin. Alors pourquoi on pourrait pas magasiner son planificateur financier? Le meilleur truc, là, informez-vous auprès de vos proches s'ils en ont un, s'ils sont satisfaits. Peut-être lui demander qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, lorsque vous aurez pris contact avec lui, vérifiez auprès de l'autorité des marchés financiers. Chacun est enregistré. Chacun des planificateurs financiers est enregistré et vous allez vérifier, oui, s'il est inscrit en bonne et due forme, s'il a tous les permis requis et ensuite, s'il n'y a pas un petit tanicroche quelque part, là, parce que ça va être inscrit dedans, s'il est sous enquête, s'il y a eu des malversations de son côté. Et l'autre chose qu'il faut, lorsque vous allez entreprendre une première conversation avec, là, s'il commence à vous vendre n'importe quoi ou il commence déjà à vous offrir des produits dans lesquels vous n'êtes pas confortable ou vous croyez pas, là, c'est déjà un bon son de cloche. L'autre, là, s'ils mettent des stratégies miraculeuses, tu sais, le genre, regardez, si on investit dans ce produit-là, on va faire 15%. Et ça n'existe pas des 15%.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont été leurrés par ça dans le passé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et si il faut qu'ils s'informent de votre tolérance au risque. Certains vont dire, là, regarde, moi, j'ai pas de problème avec un portefeuille de 80% d'actions, 20% d'obligations. Là, s'il y a des fluctuations, je suis capable de vivre avec ça. Il y en a d'autres, là, sont incapables de dormir avec ça. Donc, si on vous offre des produits dans lesquels vous n'êtes pas confortable, là, et que ça atteint pas les objectifs dans lesquels, si vous perdez le sommeil, là, regarde, c'est pas bon pour vous, ça.
Non, c'est sûrement pas.
Et s'ils tentent de vous épater, là, dites-y bye-bye.
Oui.
Ils sont pas là pour vous épater, ils sont là pour prendre soin de votre portefeuille, mm-hmm. c'est-à-dire de prendre soin de votre argent. Et votre argent, ça vous appartient. Vous n'êtes pas là pour jouer. On joue pas à la bourse, on investit. Et l'investissement doit rapporter quelque part. Et il est là, il est un peu le gardien de votre coffre-fort, si vous voulez. Alors donc, si vous n'êtes pas confortable avec cette personne-là, allez voir ailleurs. Absolument, absolument. Et je dirais à Rachel ce matin, c'est un excellent truc, même deux, même peut-être trois personnes avant de prendre une décision pour savoir qui va s'occuper de son portefeuille.
Alors, un auditeur pose une question extrêmement intéressante, j'ai hâte d'avoir la réponse. Sa conjointe, malheureusement, a un problème de jeu compulsif. Mm-hmm. Elle devra probablement déclarer faillite. Mm-hmm. Est-ce qu'il en est également responsable du fait qu'il est son conjoint?
Oui, et la question qu'il disait, j'ai entendu dire que j'allais être responsable parce que je suis marié avec elle de toutes ses dettes. Est-ce vrai? C'est Yves qui nous écrit de Sherbrooke. Et je dirais que non. Il y a oui et non. La règle de base, c'est la suivante, là. Si vous n'avez pas signé pour une dette et que c'est elle qui a signé pour sa dette, c'est elle qui est responsable, ce n'est pas vous qui en êtes le responsable. Donc, si par exemple, elle a contracté une dette pour acheter un véhicule automobile et que c'est elle-même qui a signé, que vous n'êtes pas co-signataire de ce véhicule-là, si elle déclare faillite, peut-être qu'elle perdra son véhicule automobile, mais vous, ça ne vous fera absolument rien. Par contre, faites très attention. Lorsque vous signez une dette conjointement, chacun devient responsable à 100% de la dette. Alors, si, par exemple, cette personne-là, vous avez signé pour le véhicule automobile, je vais reprendre encore une fois cet exemple-là, et que vous êtes co-signataire de la dette, vous êtes copropriétaire du véhicule et qu'elle déclare faillite, ben vous devrez continuer à payer, vous, bien entendu, les traites que sur votre véhicule automobile. S'il y a une rupture, par exemple, si votre ex-conjoint ne fait pas ses paiements sur une marge ou une carte de crédit à laquelle vous êtes associé, vous allez être 100% responsable de cette dette-là. Mais autrement, si vous n'avez pas apposé votre signature sur une dette dans laquelle elle a contracté, vous n'êtes pas co-signataire, vous ne serez absolument pas responsable. Et est-ce que ça va entacher votre dossier de crédit? C'est le même principe que tantôt, là. C'est le même principe. Alors, si vous n'êtes pas signataire de la dette dans laquelle elle s'est mis les deux pieds dans les plats, par exemple, c'est elle qui va être responsable lorsqu'elle fera faillite. Ça n'entachera absolument pas votre cote de crédit. C'est extrêmement important. Par contre, si vous êtes co-responsable et que vous ne payez pas, ben là, c'est vous qui
c'est ça. Donc, c'est votre niveau de responsabilité dépendant de l'accord que vous avez avec votre conjoint-conjointe.
Ouais. Et l'autre chose, très rapidement, parce qu'il me reste à peu près 20 secondes.
20 secondes.
C'est la résidence familiale. Alors, si votre conjointe est en difficulté financière, qu'il ne possède que 50% et moins, la loi dit, c'est interdit aux créanciers ou au syndic de forcer la vente de la propriété. Il va falloir de bonne foi négocier pour savoir qui restera le propriétaire de la maison.
Merci beaucoup, François. Voilà. Bonne semaine. À la semaine prochaine.